Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Geoffrey Essence, bonjour.
Salut.
Et tu es là pour nous parler de Essence Frères, une entreprise que tu as créée avec ton frère Damien, une entreprise de champignonnerie basée à Saint-Julien-en-Quin. Alors, depuis quelque temps, on peut découvrir ton étal sur le marché de Die, mais c'est le résultat d'un travail qui a commencé quand ?
C'est un travail qu'on a commencé il y a à peu près 2 ans de ça. On a racheté un ancien élevage de lapins, un élevage de cuniculture. Voilà, donc à l'entrée de Saint-Julien, on a eu 1 an et demi à peu près de travaux, d'assainissement. Et ça fait depuis du coup l'été 2017 qu'on a des sous pour la construction. Donc on est là-dessus, la construction, et depuis septembre 2018 qu'on a pu commencer à produire. Donc ça fait voilà, quelques mois maintenant, et depuis, comme tu disais, depuis janvier qu'on est maintenant sur les marchés. Voilà.
Est-ce qu'il y avait une particularité de ce bâtiment que vous avez repris pour exercer cette activité ?
C'est une serre agricole, donc isolée avec une espèce de bâche camion. Donc plutôt bien isolée parce qu'en plus on est en bord de rivière et sur les Ubacs. Donc quand même assez frais et en même temps assez humide. On a découvert que finalement le lapin était élevé à peu près dans les mêmes conditions que le champignon se cultive. Donc on a, voilà, à peu près dans les mêmes températures, dans les mêmes degrés. Donc c'est une fourchette, quoi, entre 10 et 20 degrés. Il y a deux pièces dans ce tunnel, il est séparé en deux. Et voilà, du coup, il n'y avait pas tant de spécificité que ça. On a rajouté 2 appentis, hein, de chaque côté de ce tunnel en bois pour pouvoir d'un côté produire, donc une fois par semaine, et de l'autre côté réceptionner le champignon, à savoir du coup une chambre froide et un séchoir.
La particularité de ces champignons, c'est qu'ils sont d'origine chinoise.
Certains le sont, ouais. Donc, par exemple le shiitake, appelé en français le lantin du chêne, c'est exactement ce que ça veut dire, quoi. Le shi, c'est le champignon, et le take, c'est le chêne, ou l'inverse, je ne sais plus trop. Et le pleurote, on le trouve aussi chez nous. Il y a la pleurote grise, on a la pleurote de l'homme, on a la pleurote pulmonaire, la pleurote du panicot qui pousse au pied du chardon, le panicot, d'où le nom, la pleurote de l'homme parce qu'elle pousse sur l'homme. Voilà, pour le moment, ce sont ces variétés qu'on cultive, et derrière, d'autres à venir que je suis en train de tester actuellement chez moi, pour voir un peu, parce qu'elles ont toutes des conditions atmosphériques, hygrométriques, différentes. Voilà, donc c'est l'idée de se roder un peu sur les nouvelles variétés, pour derrière ensuite pouvoir les commercialiser en bon état, quoi, et être sûr de ce qu'on vend, et voilà.
La température a une influence sur cette activité aussi ?
Oui, du coup, c'est nous qui organisons notre climat comme on l'entend. Et donc le tunnel est séparé en deux. Il y a une pièce dite d'incubation, donc là où le mycélium va venir coloniser le substrat, le mycélium étant la racine du champignon. Donc ça varie, ça peut être 3 semaines, entre 2 et 3 semaines pour le pleurote par exemple. Et ça sera plutôt 2 mois pour le shiitake. Ensuite, il y a une deuxième pièce qui, elle, est beaucoup plus froide. On passe de 20 degrés à 12 degrés pour le moment. Et l'hygrométrie passe de 60 à 90%. Et donc c'est ce choc thermique et hygrométrique qui va donner le signal aux champignons pour se reproduire. Et pour se reproduire, comme tout organe, il doit donner son fruit pour derrière libérer des spores et pouvoir se reproduire. Donc voilà, en fait ce qu'on mange nous et qu'on appelle communément le champignon, c'est juste le fruit, mais le champignon à la base c'est le tout avec le mycélium et le fruit du champignon.
En somme, je crois comprendre même que il n'y a qu'un seul mycélium et une multitude de fruits. Hein. On ne peut pas croire, il ne faut pas croire, je crois, que le champignon soit une plante unique ou pas une plante, puisque ce n'est pas une plante. Comment on peut appeler
Non, c'est ça. Il y a quand même un réseau mycélien,
oui,
qui se crée, et derrière la fructification. Donc c'est très sporadique, quoi, comme on le sait. Des champignons qui repoussent au même endroit chaque année, d'autres qui bougent comme les morilles par exemple. Et ouais, non, on peut pas dire que ce soit c'est forcément relié, quoi, mais des fois le mycélium va pas forcément toujours fructifier. On va pas toujours avoir un champignon, il faut derrière du coup les conditions adéquates pour la fructification, qui sont notamment ces chocs.
Et on peut parler d'une durée de vie d'un mycélium?
Je dirais que oui, si par exemple il fait trop sec pendant plusieurs années d'affilée, peut-être qu'il ne va pas y avoir assez d'eau pour nourrir ce mycélium. Si du coup il y a trop d'arbres coupés, ben derrière les déchets organiques, à savoir les feuilles, dont se nourrissent beaucoup les champignons. Les champignons sont ceux qui biodégradent la forêt constamment, quoi. S'il n'y avait pas de champignons sur la planète, on serait sous plusieurs kilomètres de déchets organiques. Voilà.
Et de végétation, je suppose aussi.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené, toi et ton frère Damien, donc, à créer cette entreprise? C'est la passion du champignon?
Non, plutôt, je dirais d'abord du territoire. On avait une envie tous les deux très forte de rester dans le coin. Pas forcément la vallée de Quin, mais en tout cas dans le Diois. Et puis on s'est trouvé que finalement, on est tombé sur cet élevage à reprendre dans la vallée de Quin. Donc ça s'est fait dans la vallée de Quin, là où on avait déjà quelques attaches, où on était arrivé, moi j'étais passé il y a 5 ans chez David Toussaint, un agriculteur de la vallée. Et voilà, on avait envie de rester dans le coin et faire quelque chose dans le domaine agricole. On a regardé un peu autour de nous, on s'est vu que voilà, il y avait vraiment peu de champignons. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et moi, je partais aux États-Unis chaque année, bosser dans les vendanges chaque année. Et j'ai eu l'occasion derrière de me former là-bas, en fait, qui est une culture assez répandue. Ça se fait beaucoup sur la côte ouest, avec le climat assez approprié, qui était plutôt propice à ça. Et l'influence asiatique, voilà, de la côte ouest, qui fait que du coup, la culture est présente depuis plusieurs années. Nous, on a la culture du champignon de couche. Voilà, donc du champignon de Paris avec les carrières de tuffeau aux alentours de Paris, qui sont cultivés sur du crottin de cheval, donc c'est pas le même substrat. Et là-bas, du coup, il y a plus une culture qui s'est développée, tournée vers le champignon asiatique, et notamment le champignon médicinal, ce sur quoi on a envie de tendre dans le temps.
Et puis, on peut en parler par la suite aussi d'autres débouchés, hein, insoupçonnables du mycélium aussi. Tu parlais de substrat, lequel utilises-tu, toi?
Donc, moi, je fais mon substrat. Donc, c'est avec de la sciure de feuillu que je vais récupérer, que je récupère en scierie, qui est un peu amendée, notamment avec des copeaux, de la gypse. Donc, la gypse, c'est une roche calcaire qui va venir stabiliser le pH. Et du son de blé, par exemple. Voilà. Il y a très peu d'amendements. C'est des différentes recettes comme ça, et avec un certain taux d'humidité, qu'on mélange pour le moment dans une bétonnière, et qu'on met en sac, et qu'on vient ensemencer derrière. D'abord, ce substrat est pasteurisé. Pendant 20 heures, on fait de la pasteurisation longue durée. C'est le joli petit nom que ça porte. Ensuite, on vient ensemencer ce substrat qui a été pasteurisé. Donc, toutes les bactéries, les autres champignons, les spores, endospores, tout ça ont été tués. On a tué une flore pour en développer une autre qui va être soi-disant bénéfique aux champignons. Une fois que cette pasteurisation a été faite, on va venir ensemencer ce substrat avec du mycélium. Donc ça se fait en labo devant une hotte à flux laminaire, qui est du coup un espace stérile. Là, on ensemence, on vient mélanger le tout, refermer avec une soudeuse thermique. Et là, ça passe dans cette première pièce dite d'incubation, où, comme j'ai dit tout à l'heure, le mycélium vient coloniser le substrat.
Le spore en lui-même, est-ce que vous en faites l'utilisation dans le processus?
Pour le moment, on ne fait pas encore notre mycélium, quoi, donc la résultante du croisement de un sport A plus un sport B, quoi. C'est pas, ça marche pas exactement comme nous, c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, il faut qu'il y ait les bons sports qui se rencontrent pour derrière faire du mycélium. Pour le moment, on le fait pas encore. Là, on vient de récupérer un autoclave, donc qui nous permettrait de stériliser du grain, en l'occurrence du seigle, pour pouvoir derrière faire notre mycélium à nous. Moi, j'ai récupéré des souches aux États-Unis d'une vingtaine de champignons que derrière on va dupliquer, cultiver sur ce seigle, sur cette céréale, pour ensuite derrière pouvoir ensemencer avec notre propre mycélium notre substrat. Pour le moment, on fait déjà notre substrat, ce qui n'est pas rien. La plupart des champignonnières qu'on croise en France achètent en fait à des très grosses boîtes leur substrat et mettent en cave en fait ce substrat avec le bon taux d'humidité. Et nous, donc voilà, déjà on le fait, et puis je pense que ça va prendre peut-être 2-3 mois, quoi, de test, le temps de se roder, tout ça prend un peu de temps, c'est le boulot avec le vivant comme ça. Voilà, et derrière, comme ça, on sera complètement indépendant et gérer nos propres souches.
Alors, il y a la production, hein, qui prend combien de temps par rapport à cette activité?
La production nous prend environ une semaine, un jour par semaine. Donc, à savoir une matinée, on vient faire notre petite recette, on fait notre substrat, notre mélange, l'humidification, tout ça. Là, on met à pasteuriser. Ça pasteurise une vingtaine d'heures. Le lendemain, on sort ce substrat, c'est un espèce de gros caisson qu'on a fait, de 2 mètres cubes, là, tout isolé, qui retient bien la chaleur. On le sort de ce caisson et on le passe en labo. Là, il refroidit et on ensemence donc du coup le lendemain après-midi. Voilà, il refroidit 4-5 heures, une fois que c'est à 30 degrés ou en dessous, parce que sinon, si c'est trop chaud, la chaleur va tuer le mycélium, donc c'est pas l'idée. Donc voilà, on a en tout une journée de production, quoi, quand c'est mis bout à bout, et derrière, c'est du coup beaucoup de cueillettes, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. La commercialisation, les livraisons, 2 marchés par semaine, le mercredi et le samedi, à 10 pour le moment, peut-être à venir celui de Saillant et d'autres, pourquoi pas.
Une activité qui nécessite un certain nombre de personnes, dont ton frère. Vous êtes combien à travailler sur cette activité, enfin sur cette entreprise?
Pour le moment, on est deux, mon frère et moi. Voilà, on est tous les deux et ça fait deux temps plein.
Et donc, bonne nouvelle quand même pour vous, c'est que vous n'arrivez pas forcément à fournir et contenter toutes les commandes. Ça tendrait pour vous à vous développer. Est-ce que c'est pour vous une priorité ou alors vous auriez plutôt envie de tenir une vitesse de croisière, je dirais?
Pour le moment, on va dire qu'on est encore dans une phase de développement où on n'a pas atteint notre rythme de croisière. Chose qu'on espère bientôt, peut-être possible cet été. Voilà, donc on vient de lancer un peu la production en septembre, donc ça met un peu de temps, le temps de se roder, de gérer notre outil de travail. L'idée est de se payer tous les deux, pas voilà, un salaire de ministre, mais quand même de quoi vivre. Et derrière, voilà, de temps plein et de quoi en vivre tous les deux. On est deux à en vouloir vivre pour le moment.
Et réinvestir aussi. C'est une activité en fait qui permet de pratiquer toute l'année.
Oui, étant donné qu'on gère nous notre climat, l'hygrométrie, la chaleur, le froid, le jour, la nuit, ça nous permet de produire toute l'année, sachant que nous on a des variétés de pleurotes. Par exemple, pour le moment, vous les voyez sur le marché, c'est la pleurote de grise ou la pleurote de l'orme. Ce sont des pleurotes plutôt hivernales. Là, du coup, bientôt, on va changer et passer sur des pleurotes dites tropical. Donc là, c'est plutôt des pleurotes. Il y a des pleurotes roses, des pleurotes jaunes. Voilà, va y avoir d'autres variétés de shiitake qui auront vraiment la même apparence. Mais voilà, ce sont d'autres variétés qui sont plus habituées à des climats un peu plus chauds.
Alors le shiitake, c'est ça on dit?
Oui.
Shiitake a une particularité gustative, c'est qu'il a un aspect fumé.
Un aspect un peu fumé, les Japonais le décrivent de la saveur umami. Voilà, la cinquième saveur qu'on commence un peu à connaître ici, à utiliser, mais encore peu. Et un champignon surtout qui a beaucoup de vertus médicinales, qui commencent même. Moi, j'ai c'est assez chouette. J'ai des clients sur le marché qui viennent me voir, qui me disent mon ostéo m'a recommandé de prendre du shiitake. Voilà. Donc il y a peut-être bientôt des ordonnances de shiitake.
On peut rêver, mais ça viendra. Hein. Qu'est-ce que je voulais savoir, quels sont justement les bénéfices de ce champignon?
Alors les champignons, donc, c'est plutôt dans les sucres, qui sont des polysaccharides, des triterpènes. Il y a plusieurs familles qu'on va retrouver dans chaque champignon. Le shiitake, en l'occurrence, booste le système immunitaire, très bon pour ça, pour la vitamine D notamment. Et aussi pour plusieurs cancers. Ça, les champignons sont très étudiés pour certaines maladies, et en particulier beaucoup de cancers. Voilà, il y a d'autres variétés, l'hydnérisson, le reishi, le chaga, le cordyceps, qui sont des champignons qui ont peu d'intérêt gustatif, culinairement parlant, mais qui derrière sont consommés en Asie, par exemple, depuis des millénaires, et qui commencent ici à faire leur petit bout de chemin.
Alors, je connaissais le champignon comestible, le champignon de teinture aussi. Je t'en parlais hors émission avec, par exemple, Marie Marquet qui travaille aussi sur ce domaine. Et puis, j'ai appris, il y a le cuir de champignon, de mycélium aussi.
Le cuir de champignon, oui, exactement. C'est un champignon du coup qui se cultive, je crois que c'est dans la famille des amadous. Qu'on cultive pour le mycélium, du coup, sur une forme, sur un moule, en fait, qu'on va laisser croître sur ce moule et que derrière qu'on va assécher et qui va devenir un espèce de cuir fongique, quoi, voilà, qui va résister dans le temps et qui, en plus, derrière, sera biodégradable.
Ces espèces de champignons, vous les avez découvertes comment ou alors est-ce qu'il y avait des évidences pour leur culture ?
Sont des champignons dans la culture qu'on retrouve assez souvent, des champignons cultivés. Il y en a une petite cinquantaine. Voilà, je crois qu'on a recensé à peu près 100 000 champignons. Il y en aurait plusieurs millions. Et on est capable d'en cultiver aujourd'hui une cinquantaine. Voilà, sur ces 50, nous pour le moment, on en cultive, on en vend 5, on en a 6 ou 7, on en a 7 pour le moment. Chez nous, et l'idée est d'arriver peut-être entre 10 et 20, sachant que dans le médicinal, ce sera plus large, et ainsi qu'il y aura des champignons qu'on cultivera, mais pas forcément pour le fruit, en fait. Il peut y avoir déjà des bénéfices, des avantages juste dans le mycélium. Et donc, certains champignons, justement, qu'on n'arrive pas encore à faire fructifier en culture. Ce sont des champignons dits mycorhizes, donc qui échangent des informations avec d'autres organismes végétaux, mais on ne sait pas forcément lesquels. Donc on a encore du mal à les cultiver, et puis de toute façon, c'est aussi bien qu'ils gardent leurs petits secrets et qu'on puisse. Ce n'est pas forcément l'idée non plus de tout pouvoir cultiver. Quoi.
Puis souvent, c'est par accident hein, qu'on peut découvrir quelque chose aussi.
Oui. Je pense que ça arrive souvent et nous, on est les premiers surpris. Il y a des variétés qu'on nous a dit difficiles à cultiver et puis paf, comme ça, ça sort tout seul. Et d'autres qui sont soi-disant très faciles à cultiver, avec lesquelles on commence et voilà, on galère un peu plus, on met un peu plus de temps.
Est-ce qu'on peut penser qu'un champignon a une sensibilité de ce qui se passe autour de lui ?
Je dirais que oui. Là, en fait, le champignon va donner son fruit, comme je disais, avec ce choc thermique ou hygrométrique. Ça peut aussi être un choc phonique. C'est pas des conneries. Moi, je le vois, c'est beaucoup avec le shiitake. Je le vois dans mon tunnel. Voilà, il y a mes enceintes que je mets en route quand je récolte. Je passe plusieurs heures là-dedans. Et j'ai remarqué que ce choc phonique peut avoir une incidence sur le fruit du champignon. Bah, c'est la génodique, quoi, comme ça se fait aujourd'hui dans les vignes. J'ai rencontré un maraîcher vers Lyon là, qui faisait ça pour ses courgettes, mais qui était justement, c'est marrant, pour éradiquer un champignon.
Ça, je peux le confirmer aussi pour les cactus. Hein. J'ai un cactus qui a muté vraiment physiquement d'un endroit à l'autre, et ça sur plusieurs fois.
Depuis qu'il écoute Erdiwa ou...
ça peut être aussi l'aspect urbain ou rural. Hein. Okay. Voilà. Et puis, s'il y a du monde, c'est vraiment étonnant. C'est pareil pour les plantes. Hein. On dit qu'il faut leur parler. Et donc, est-ce que ça influe... Enfin, je ne sais pas s'il y a eu des études faites là-dessus. Est-ce que l'environnement influe sur le goût?
L'environnement dans lequel il pousse,
oui.
Sans doute. Nous, on fait de la culture donc sur substrat, donc c'est de la sciure de bois, parce que plus c'est fin, plus le champignon va le décomposer, s'en nourrir rapidement. Il y a aussi de la culture qui se fait sur bio de bois ou même sur souche. Et donc plus la souche, le bio est gros, grand, plus le champignon va mettre du temps à le décomposer. Plus il va y avoir du champignon, une grosse souche par exemple d'un feuillu, mettons un chêne, une bonne souche de 40 cm de diamètre, mettons, on peut avoir du shiitake derrière pendant 10-15 ans. Voilà, s'il pleut assez régulièrement, que le champignon il va avoir de quoi se nourrir, de toute façon, vu qu'il va décomposer cette souche. Tant qu'il y a de l'eau qui est amenée, il va pouvoir vivre plusieurs dizaines d'années. Et derrière, du coup, moi je dirais, j'ai pas encore expériencé. J'ai pas eu le temps de le faire. Je vais faire un peu de culture sur bio, mais juste pour un petit à côté pour m'amuser, pour voir ce que ça donne. Le champignon serait plus ferme, il serait un peu plus goûtu. C'est une culture qui se fait beaucoup au Japon. Ici, un peu moins. C'est très compliqué de rendre la culture économiquement viable, à ce que j'ai compris.
Disons qu'il faut y mettre le prix pour le consommer, c'est ça, non ?
C'est ça. Et voilà, c'est déjà un champignon qui a quand même un certain coût, qui est pas forcément accessible à tout le monde. Si derrière c'est cultivé sur bio, je pense que c'est encore un autre coût et c'est une manutention de dingue et un boulot répétitif et qui peut-être à la longue est pas non plus personnellement très très intéressant pour moi.
Il y a peut-être un marché à prospecter là-dessus, à l'adresse de ceux qui en auraient les moyens de consommer, je dirais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, je reviendrai sur l'aspect phonique. Est-ce que ça serait un secret de nous dire quelle musique tu écoutes dans ces moments-là ?
Ça peut être un peu de tout. Si c'est un peu de NTM, ça va être un champignon un peu plus hargneux, mais qui va pousser très vite. Non, je dois dire que j'ai pas forcément noté de différence. Je sais que la musique qui est utilisée, vraiment qui est étudiée en génodique, par exemple pour des champs de vigne, sont des études avec un génodicien, je suppose, qui vient et qui étudie vraiment. C'est pas celui-là, ça va être bien pour Bach. Si c'est ce cépage, ce sera plutôt, j'en sais rien moi, du Bowie. Et puis non, ça marche pas comme ça. C'est pas de la musique très agréable à écouter comme ça, et c'est plusieurs fois par jour. Moi c'est un peu de tout, ça peut être du hip-hop comme de la folk, ou des fois Erdiwa, il mange un peu de tout.
Je leur souhaite bonne écoute à ces champignons. Toi et ton frère, est-ce que vous avez suivi un même cursus pour en arriver là?
Non, pas du tout. Moi j'ai du coup appris sur le... J'ai été formé par un ami maintenant qui vit du coup en Oregon, Cameron, qui a bossé chez Paul Stamets, qui est un peu le gourou du champignon américain, qui évolue à Washington, donc tout au nord-ouest, à la frontière avec le Canada. Donc j'ai pu apprendre, j'ai passé 4 mois chez lui, très intéressant, j'ai pu apprendre vraiment pas mal de choses. Derrière, on a prospecté un petit peu ici, on est allé dans la Loire, tout ça, rencontrer différents champignonistes, mais c'était pas sur un modèle qui nous intéressait, nous, forcément. C'était des gens souvent qui achetaient leur substrat, qui le faisaient pas eux-mêmes. Nous, c'est vrai qu'on avait envie de le faire, nous. Donc derrière, je suis revenu, après ces petits 4 mois là aux États-Unis de formation, et avec une bonne pile de bouquins, tous en anglais. C'est rare, il n'y a pas d'ouvrage aujourd'hui traduit en français. Sur vraiment la culture, je vais pas dire intensive, mais la culture de champignons qui derrière amène à, et enfin qui est économiquement viable en fait. Ça n'existe pas quoi. C'est plutôt, il y a des petits traités rustica ou des ouvrages comme ça pour s'amuser derrière dans son jardin. C'est pas un modèle de culture.
Est-ce que ça t'a permis aussi d'aborder la chimie?
Un peu tout ça, chose que je n'aimais pas forcément plus jeune et qui aujourd'hui est, je trouve, très intéressante. D'autant plus qu'on a ce labo, là, cette hotte à flux laminaire qui nous permet de bosser dans des conditions stériles. Et donc derrière, par exemple, de geeker un peu avec les champignons, par exemple, à savoir aller ramasser une pleurote d'ivoise en automne et puis essayer de la cloner. Donc ça veut dire récolter les spores qu'on fait tomber, par exemple, sur une. On découpe le chapeau et puis on le met à l'envers et on le pose sur une feuille. Et puis le lendemain, on va avoir des millions de spores qui vont être tombés. Là, l'idée est de venir les récolter avec un petit scalpel et d'essayer d'en déposer dans une petite boîte de pétri, là, qui sont les petites boîtes qui peuvent être en verre, qui sont aujourd'hui pas mal en plastique, mais à la base, oui, qui étaient en verre. Et dessus, de mettre de l'agar, un gélifiant, dont vont se nourrir en fait les spores. Le mycélium va se développer là-dessus et c'est en fait, la culture souche commence comme ça, quoi. C'est souvent. Soit avec des spores, soit on peut venir prendre un tissu du champignon, une zone bien, bien définie. Il y a des tissus plus purs que d'autres. Le plus pur serait à la jonction entre le pied et le chapeau. Voilà. Découper le champignon avec un scalpel. Bien sûr, tout ce matos est stérilisé. Il faut travailler avec la combi, le masque, les gants. Et derrière, découper ce petit bout de tissu et pareil, le mettre en culture sur de l'agar, voir le résultat. Chaque mycélium se répand différemment et derrière, dupliquer en fait, prendre un petit carré de cet agar, le mettre dans un volume plus grand et voilà, on fait x1, puis x10, puis x100 et comme ça derrière, on a sa bibliothèque de culture qu'on peut derrière utiliser pour son substrat.
Ça, c'est un travail qui permettrait à l'avenir ou est-ce que vous l'avez déjà d'être en autonomie ?
C'est un travail à l'avenir, dans un avenir, je l'espère, assez proche. On a maintenant un autoclave qui sera bientôt en route, qui nous permettra de stériliser notre céréale et derrière de cultiver nous-mêmes notre propre mycélium. À savoir que pour le moment, on l'achète, c'est aussi un certain confort. Ça veut dire qu'il arrive chez nous, on sait comment il a été préparé, on sait quel champignon c'est, on connaît là un peu quelle vigueur il a. Plus un mycélium est vieux, moins il va être en forme, moins il va donner de beaux fruits, qui est quand même l'idée principale. Donc pour le moment, on l'achète. L'idée est de le faire nous. Après, on se donne le droit aussi quand même peut-être de continuer finalement à l'acheter. C'est un certain coût pour nous, qui n'est pas des moindres, peut-être un des plus élevés mensuels. Mais derrière, qui nous laisse une certaine tranquillité. Et en même temps, le faire, c'est aussi gagner complètement son indépendance. Et aussi, pourquoi pas, pouvoir cultiver des variétés un peu plus funky qu'on ne trouve pas forcément dans ces boîtes-là, quoi.
Est-ce que c'est une occasion, j'ignore un peu la mycologie, mais est-ce que c'est une occasion de découvrir d'autres espèces continentales, d'autres continents avec cette technique de culture ?
Oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup de champignons qu'on trouve au Japon et qu'on ne trouve pas ici, par exemple, à l'état naturel. Voilà. Et eux sont, ils en cultivent. Je ne pourrais pas dire combien de variétés, mais depuis un moment. Mais c'est des cultures très mécanisées parce que c'est des très gros volumes, mais chaque eux, ils font ça dans des bouteilles, comme ça, c'est recyclable, mais ça demande d'être très mécanisé, quoi. C'est vraiment des petites usines, quoi. Donc, pour le moment, nous, c'est pas trop l'idée, mais il y a carrément des champignons le shiitake, je pense pas qu'il était présent ici à l'origine. Il a dû être ramené de voyage, et puis au fur et à mesure, gagner de la place et d'être de plus en plus utilisé, mangé, consommé ici maintenant. Quoi.
Et il y a d'autres espèces ou d'autres continents à part l'Asie ?
Je dois dire que je connais peu, par exemple, sur l'Afrique ou l'Amérique du Sud pour sûr. Ouais. Bah, je sais que l'Amérique centrale, avec Maria Sabina qui a fait découvrir les psilocybes au monde, quoi, dans les années 60, avec les gringos qui descendaient chez elle pour avoir leur petite expérience. Mais c'est vrai que je sais que c'est une culture des cultures qui se font de plus en plus aussi dans les pays tropicaux où il n'y a plus besoin justement de gérer son climat. Voilà, la température et le taux d'humidité fait que on peut cultiver certains champignons, pas mal de champignons, le pleurote étant le plus facile, la pleurote grise, dans des. Voilà, c'est un truc assez simple qui peut aussi se cultiver sur de la paille, Voilà, il suffit de paille, de mycélium, de pasteuriser le tout. Donc ça peut se faire dans un bidon en métal avec un feu de bois dessous. Et puis on pasteurise la paille en immersion dans l'eau. Derrière, on l'ensemence avec son mycélium et on met ça en culture dans un sac. On met ça dans une petite cabane. Et derrière, ça peut assurer un revenu à une certaine partie de la population. Je sais que ça se fait de plus en plus. J'ai un ami chez qui je m'étais formé aux États-Unis, m'avait proposé d'aller au Guatemala justement pour faire ça.
Est-ce qu'il existe un réseau de production de champignons à travers le monde ou au niveau national déjà pour déjà vous échanger aussi des informations ou des pratiques?
Il y a beaucoup de choses, donc c'est souvent en anglais, et surtout il doit y avoir plein d'ouvrages aussi en chinois, japonais, que j'ai, ne parlant pas cette langue, voilà, j'ai pas eu l'occasion de m'y adonner, mais non, il y a peu de réseaux. C'est aussi ça qui est un peu peut-être pas évident dans ce domaine-là, c'est qu'il y a un côté aussi où dans les débuts, on trime un peu tout seul, quoi. Face à son mycélium, quoi, face à son truc, là, on essaye d'avancer à tâtons. Il y a un ou deux confrères ici dans le coin avec qui on échange de temps en temps. Après, on a tellement tous, hein, on s'est fait un outil de travail, des milieux de culture, tous très différents. Donc, on aura beau échanger sur plein de choses, et ben, ça va être toujours les autres qu'on va devoir, en fait. Là, c'est juste nous tout seuls, quoi. Même moi, de ce que j'ai appris auparavant dans ma petite formation, ça m'a donné des bonnes bases, mais derrière, en fait, avec mon frère, on a dû presque tout revoir, en fait, parce que c'est vraiment, on a des conditions vraiment différentes les uns des autres. Il y a quelques groupes, c'est assez drôle, sur Facebook, voilà, des communautés, il y a de tout, du coup, des gens qui veulent s'amuser dans leur jardin, comme des gens qui veulent en faire un gros commerce du champignon. Voilà, et là-dessus, c'est vrai qu'on c'est assez chouette. C'est virtuel et des fois un peu dénué de sens, mais il y a un côté où on balance une photo, on pose une question, on peut voilà, et qu'il y a derrière 7 ou 8 personnes ou 0 qui nous répondent et ça nous aide un peu.
Est-ce que la champignonnière est visitable ou alors les champignons sont fragiles à la visite ou aux ouvertures de portes?
C'est dommage que ça ait peut-être pas été programmé là, comme ça j'aurais pu l'annoncer aussi à la radio. Courant avril, on aimerait bien justement faire une petite visite. On en a fait déjà une là, mais c'était dans le cadre de l'association dans la vallée de Quin. Là, on va en faire une, voilà, parce que c'est vrai que ça intéresse quelques personnes qui nous demandent. Donc on va en faire une pour les différents commerces qui nous prennent de champignons. Et du coup, on va coupler ça aussi avec d'autres consommateurs. Voilà, on mettra un petit fly sur le marché aux gens qui passent. Je pense courant avril pour ceux qui sont intéressés de venir jeter un coup d'œil.
Est-ce que vous avez dans l'optique de cette activité un moyen de communiquer aussi par le biais d'un blog par exemple sur cette production?
C'est en cours, voilà, ça va bientôt être sur la toile. Oui, il y aura un site, je pense à Ensen Frères, et puis on nous trouvera assez facilement quand on tapera Pleurotte d'Ivoise, voilà, là on pourra nous trouver sur la toile. Pour le moment, c'est vraiment les marchés, la Carline, le U, l'épicerie centrale. Il y a plusieurs restos, voilà, qui nous en prennent aussi, les bons passants, les petits fourneaux. Il y a les volonteux aussi à Valence qu'on livre. Bientôt la fontaine minérale. Voilà, il y a plusieurs restos qui sont intéressés, le Mérilou.
Il y a juste une page peut-être Facebook par exemple.
Non, toujours en cours de création.
Le seul moyen de vous contacter actuellement, c'est d'aller sur les marchés, par exemple.
Voilà, pour le moment, d'aller sur les marchés, les différents magasins que j'ai énoncés.
Oui, et les marchés de quelle ville
Les marchés, pour le moment, donc mercredi et samedi. On verra peut-être cet été, éventuellement Saillant. L'organisatrice du marché de Minglon qui est passée me voir tout à l'heure pour les marchés de jeudi soir là, à Minglon. Pourquoi pas? Voilà, donc pour le moment, on a assez, on est cool, tout ce qu'on a à vendre sur ces magasins et sur le marché, donc on n'a pas plus. L'idée est de pouvoir produire un peu plus d'ici cet été, donc éventuellement, si on a plus de stock à écouler et qu'il n'y a pas tout qui part dans le coin, on ira faire des marchés, pourquoi pas Luc, Châtillon, Saillon.
Geoffrey et ton frère Damien, vous êtes optimiste quant à l'avenir?
Plutôt, ouais. Ouais, c'est un truc. Encore trop peu de gens sur le coup. Nous, il y a des gens qui nous appellent un peu tous les jours. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Est-ce que je peux venir voir? Je dirais que c'est plutôt un bon moment. Voilà, c'est quelque chose. Avec le monde vegan, végète qui monte, voilà, c'est aussi un truc qui permet de remplacer la viande. Le pleurote est très protéiné. Donc je pense que c'est un bon créneau. Et en plus, le champignon médicinal derrière, voilà, dans peut-être à la fin de l'été ou peut-être un peu plus, qu'on commencera éventuellement à lancer. Et ça, pareil, je pense qu'on est dans un territoire assez ouvert. Qui nous permettra, je l'espère, de pouvoir peut-être vivre de tout ça un jour.
Prévoir peut-être aussi d'éventuelles activités culinaires avec le champignon aussi. Est-ce que ça, c'est des choses. Ça permet de développer des animations, je dirais, à l'adresse du public aussi, non?
Pourquoi pas, ouais. Des transformations, des soupes, des sauces, voilà.
Et quels sont les moyens de vous contacter?
Ça peut être par mail, voilà. Hensens Frère, donc Hensens Frère, au pluriel, @gmail.fr. Et par téléphone au 06 31 63 94 74.
Eh bien, en tout cas, merci Geoffrey d'être venu nous parler donc de votre champignonnerie basée à Saint-Julien-en-Quin. Et vous-même êtes visible donc sur les marchés de Die le mercredi et samedi, et puis dans divers commerces du territoire.
Voilà, ouais. Merci beaucoup à toi Yves de m'avoir reçu.
Eh bien, bonne soirée.
À vous tous.
Au revoir.